Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, bienvenue dans ce numéro un peu spécial de Jeu du Mois, c'est Cyrus. Nous allons profiter de cette chronique pour débriefer du Festival International des Jeux de Cannes 2017. En compagnie de Benoît FX, comme d'habitude. Salut Benoît.
Salut Cyrus.
Et nous avons invité pour l'occasion en guest star, Fan Noël. Salut Fan Noël.
Salut. Salut Cyrus.
Alors le Festival de Cannes s'est tenu il n'y a pas très longtemps. Nous sommes le 28 février 2017 et le festival a eu lieu du 24 au 26. Donc on débrief complètement à chaud. Alors de quoi allons-nous vous parler ce soir? Alors on va commencer par vous parler un peu de notre ressenti sur le salon. Et puis ensuite, on passera aux jeux auxquels on a joué et dont nous avons envie de vous parler. Alors juste avant ça, on va aborder un peu les petites interviews qu'on a réalisées sur le salon. Alors, Fan Noël, tu nous parles de tes interviews?
Oui, tout à fait. Donc, j'ai interviewé Marc Paquien, qui est, on va dire, l'auteur à la mode. Enfin, c'est surtout l'auteur de Yamatai, avec l'un des auteurs de Yamatai, avec...
Bruno Catala.
Et j'en ai profité également pour faire un tour dans des petits stands et pour trouver un collectif qui s'appelle le collectif ISPA, qui est tout simplement un regroupement d'éditeurs espagnols. Donc c'était intéressant de les interviewer. Donc j'ai en fait interviewé un Français, mais qui leur sert d'interface. C'est un Français qui vit à Barcelone, en Espagne, et qui leur sert d'interface, et avec lui et avec donc ses différents éditeurs, il compte parcourir l'Europe. Enfin bon, il le raconte mieux que moi. Et j'ai également interviewé très rapidement l'auteur de Kikou le Coucou, Victor Bautista.
Et on a interviewé ensemble Ignacy Trevicek.
Oui, tout à fait.
Personnellement, je suis pas très anglophone. En revanche, Fan Duel maîtrise un peu mieux la langue de Shakespeare. Donc on a eu cette occasion qui nous a été proposée par Stéphane Bogart, le directeur éditorial de Edge, que vous allez bientôt retrouver en interview long format. Ignacy était en fait invité sur le festival par Edge. Voilà, donc on a fait une courte interview. Et on a également réalisé une interview de Léa et Olivier, qui sont les youtubeurs de T'as vu à quoi tu joues.
Je sais pas si on dit youtubeur, je pense qu'on peut dire vidéaste.
Vidéaste, c'est quoi la différence?
Bah youtubeur, c'est un peu péjoratif. Et je crois que...
Ah bon?
Enfin, bah, ça dépend des gens, mais il y en a qui aiment pas trop qu'on dise youtubeur. Ils préfèrent vidéaste parce qu'ils font des vraies vidéos et il y a un vrai... Franchement, enfin, vous écouterez l'interview, il y a un vrai travail de montage, il y a un vrai travail d'écriture. Pour moi, c'est limite un film ou un court-métrage qu'ils font.
Mmh, oui, je suis d'accord avec toi. Moi, je les ai appelés youtubeurs, donc bon, j'espère que je les ai pas vexés.
Non, mais...
Mais ok, ouais.
En tout cas, abonnez-vous à leur chaîne parce que c'est vraiment très chouette.
Pour le coup, je connais pas, moi. J'irai voir.
Je t'invite vraiment à aller voir. Alors, on passe au salon. Le salon, quelques chiffres pour commencer. Les chiffres officiels du festival. 30 000 m2 cette année, soit 2 600 m2 de plus que l'année dernière. En fait, ils avaient pris la rotonde, ce qui sert habituellement au off. Cette partie-là a été investie par le festival. Du coup, on avait... on y reviendra plus tard, mais le off était déplacé. Alors, ils annonçaient 300 exposants. Moi, j'ai compté 250 stands sur le plan. Je sais pas trop où est la différence. J'imagine que c'est... J'imagine que quand ils comptent les exposants, il y a des stands qui sont partagés.
Ouais, il y avait des stands communs.
Donc la différence doit venir de là. 50 éditeurs tels que nous, on les côtoie, enfin environ. Donc les éditeurs un peu connus de nos auditeurs. Et ils annoncent 50 nationalités représentées. Bon là, j'avoue, je sais
pas
trop comment ils comptent ça. Non, j'ai pas compté. Ah, il parle en même temps d'un championnat international de jeux vidéo, de e-sport. Du coup, est-ce que ça vient de là, les 50 nationalités? Je sais pas trop. En tout cas, sur le jeu de société, on est quand même pas encore là. Et 100 000 visiteurs.
100 000 entrées.
Oui, enfin, 100 000 entrées, effectivement. Donc, quelqu'un qui sort et qui rentre, effectivement, il est recompté. Hein. Mais bon, de toute façon, tous les ans, c'est le même mode de comptage. Donc, ça reste comparable d'une année sur l'autre. Sachant que l'année dernière, ils n'avaient pas annoncé le nombre de visiteurs, enfin, je crois pas.
Je crois que c'était 100 000 aussi, c'était le même ordre de grandeur que l'année dernière.
Ouais, d'accord. Il me semble que quand on avait fait le débrief avec Stéphane, on n'avait pas encore les chiffres. Ok, voilà. Du coup, moi j'ai eu l'impression que c'était quand même plus aéré que les années précédentes. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Toi, fan de Noël, ça faisait un moment que t'étais pas venu, donc t'as peut-être pensé l'inverse.
Non, 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 franchement, moi j'ai trouvé que. Enfin, alors, je sais pas si c'est une nouveauté. Enfin, tu m'as dit que c'est une nouveauté d'avoir pris place dans la rotonde. Effectivement, d'avoir fait l'espace enfant séparé, je pense que c'était à mon avis salutaire. Et effectivement, bah, on retrouvait plus de. Finalement, les enfants étaient dans un coin et les parents étaient dans un autre coin et c'était pas si mal en fait. J'ai trouvé.
Ouais, moi j'ai trouvé que c'était plus aéré que l'année dernière aussi. Après, moi le samedi après-midi, j'étais un peu bloqué, on va dire, dans la zone Protolab, donc j'ai pas vu le reste du salon le samedi après-midi, ce qui est souvent la demi-journée la plus chargée. Mais sur les autres jours, ouais, j'avais aussi l'impression que c'était moins dense que les années précédentes.
Ben, j'ai personnellement eu l'impression que le samedi était moins dense que moi quand j'y étais allé la dernière fois. Bon, ça remonte à, je pense, 2 ans, si je dis pas de bêtises. Mais que c'était mieux. Moins affreux. Je m'attendais à pire.
Alors en fait ils avaient, alors c'est l'année dernière ou l'année d'avant déjà, je sais plus, qu'ils ont investi l'étage pour mettre toute la partie enfant.
Ouais, ça fait 2 ans, ça, je crois.
Oui, 2 ans déjà. Et donc là cette année, en investissant la rotonde, ils ont vraiment séparé un espace enfant d'un espace dit famille.
Avec des entrées distinctes, ouais.
Ça, donc il y avait des entrées distinctes. Donc voilà un petit peu pour le ressenti sur l'espace. On parle de l'As d'or?
Ouais, les pronostics étaient durs, hein, du coup. Pour ma part, c'est 1 sur 3.
Pareil.
1 sur 3 pour toi, moi c'est 0 sur 2. Et donc pour la catégorie enfance, c'est Kikoulou Coucou qui a remporté le prix. Enfin Noël, tu nous fais le nom des
Pardon,
auteurs?
Victor Bautista Iroca et Giuseppe
Oui,
Maria
parce que bon,
Alloué.
tu t'es
Quelle
entraîné.
prononciation, quelle prononciation.
Ouais, il s'est quand même renseigné sur la prononciation catalane, donc bon, on le laisse faire. Hein.
Ah ben. Non, mais écorcher les noms, tu vois, moi j'ai un nom qui est compliqué. Et justement, je discutais avec des Belges qui m'ont dit que Fendel, bah, si tu le prononces à la flamande, ça se dit Fendoul. Donc j'aurais bien dit. Ils m'ont posé la question, j'ai
Ça
trouvé ça très.
te va bien, Fandoul?
Fendoul, voilà, Fendoul. Donc voilà. Et donc, non, je pense que c'est bien, bien prononcer le nom des gens, c'est
Ouais,
plutôt sympa.
c'est mieux.
Et du coup, quelqu'un l'a testé, ce qui coule coucou?
Eh ben écoute, j'aurais bien voulu aller tester les jeux enfants, mais je n'ai pas eu du tout le temps. Donc non.
Pas plus.
Ok, bon ben. On ne vous parlera pas de cet as d'or enfant, du coup.
En revanche, on peut vous parler de l'As d'or
Et on
expert,
vous en a déjà parlé.
d'ailleurs. Donc c'est Sight qui a gagné, donc un jeu de Jamie Stegmeyer, qui est édité bientôt par Matago, on y reviendra un peu plus tard, qui a été édité jusqu'à présent par Morning. Donc voilà pour. Donc, effectivement, on vous en a déjà parlé, on vous ramène à la chronique précédente, jeu du mois
Alors, il
sur
y avait une
Scythe.
petite polémique quant à Scythe.
Ouais, on y reviendra du coup tout à l'heure, je crois.
Ok.
Et du coup, ouais, pour le coup, c'était mon seul pronostic qui s'est avéré.
Pareil.
C'est ça. Et enfin, le prix tout public, donc Unlock. Donc, un jeu de Cyril Demague, Alice Carroll et Thomas Coe, édité chez Space Cowboys depuis maintenant quelques semaines. Alors effectivement, on n'a pas été très très bon sur les pronostics. J'ai fait un bon zéro pointé. Pour autant, vous noterez que l'ensemble des nominés avaient été chroniqués chez Proxy Jeux. Hormis Conan. Alors je crois que Marlin voulait en parler il y a un moment et puis c'est passé à la trappe.
Et tous les jeux enfants ont été chroniqués?
Non, non, non. Moi j'allais dire
Ouais.
hormis également les jeux enfants, parce qu'en fait, personne chez nous n'est expert dans le domaine. Ça changera peut-être, hein. Parce que moi j'ai mon petit qui grandit, donc.
Tu es
Voilà.
de plus en plus amené.
C'est pas exclu. Et c'est vrai que c'est un peu particulier. J'en discutais avec Jérémy qu'on a croisé sur le salon. Et il disait, ah, pendant un temps, on y réfléchissait. Enfin, ils ont même chroniqué, en fait, des jeux enfants à certains moments. Mais ils avaient des enfants dans ces âges-là. Mais voilà, bah, ces bêtes-là, ça grandit vite. Et du
Ça
coup,
devient vite des joueurs experts.
oui. Et puis, on s'éloigne de ce genre de jeu. Du coup, on est un peu moins, à même d'en parler. Voilà. Alors, tous les deux, vous avez assisté à la cérémonie. Est-ce que vous avez des choses à nous raconter sur cette cérémonie?
Ben, moi j'ai trouvé que la cérémonie globalement était un peu plus morne que l'année dernière. En tout cas, j'étais pas aux années précédentes. Mais c'était un peu. Heureusement qu'il y avait les auteurs étrangers, donc les auteurs de Kikou le Coucou qui sont espagnols, et il y avait aussi les auteurs d'Imagine qui étaient japonais, enfin qui sont toujours japonais d'ailleurs, qui ont fait le déplacement depuis le Japon quand même pour venir représenter leur jeu. Et c'était les interventions qui étaient de loin les plus drôles et les plus animées de la cérémonie. En dehors de ça, les autres éditeurs, auteurs qui sont montés sur scène étaient un petit peu moins rigolos, un petit peu moins bavards que l'année dernière, j'ai trouvé.
Je suis assez d'accord. Ensuite, moi, je suis pas trop, peut-être pas aussi méchant. Moi, je trouve qu'il y en avait qui jouaient le jeu, qui s'étaient habillés de façon colorée. Enfin, ça faisait le show, quoi, pour la plupart. Peut-être exception pour Conan, où en gros, ils sont arrivés sur scène et ils étaient habillés de cuir. Enfin bon, c'était le truc. Enfin voilà, habillé en jean et basket, enfin ça faisait vraiment, enfin c'était dommage quoi, au milieu d'une belle cérémonie, ça faisait un petit peu léger quoi. Voilà, bon ensuite je suis peut-être un peu tatillon. Hein.
C'est vrai que Fred Norris c'est pas quelqu'un qui attache beaucoup d'importance à la tenue vestimentaire, je crois qu'il l'avait dit quand Jérémy et Olivier l'avaient interviewé.
Ouais mais là ça faisait vraiment...
Apparemment il avait 4 suites chez ouais. lui et puis voilà quoi.
Ok.
Donc ça m'étonnerait qu'il ait un costard
dans
sa garde-robe.
Non, mais ensuite tu peux avoir, je sais pas, un costume. Bah si, t'as un costume de temps en temps. Tu sais, tu vas bien à un mariage ou un truc comme ça de temps en temps. Tu peux mettre un truc un peu folklore. Et puis il aurait pu faire un truc folklore. Tu vois, il y en avait qui étaient en costume totalement rouge, totalement bleu. Enfin voilà, c'était.
Ah mais là c'est la nouvelle mode chez les éditeurs.
Ouais, c'est l'équipe bleu orange et l'équipe, enfin au moins l'équipe bleu orange.
En fait, c'est un peu les Bioman, là. C'est une espèce de mode dans le milieu. Il y a Kevin de chez Gallo oui. qui est habillé avec un costard jaune.
Ouais,
chez
Vigami,
ils en ont un qui est rouge.
Un rouge, c'est David ouais. qui est en costard rouge, ouais. Et effectivement, bleu orange, il y avait Mathieu Lanvin qui était en costume bleu. Ouais.
Bleu avec un nœud pop orange, je crois.
Mmh. Ouais, c'est ça.
Et je crois que c'est chez Libellude, il y a Paul, je crois, c'est ça, qui s'est trouvé un costume rose. Enfin bref, voilà, c'est un peu la surenchère des costumes d'assez mauvais goût, je trouve. Mais voilà, c'est rigolo, voilà.
Non, mais sinon, moi j'ai particulièrement adoré la fausse séance de traduction des auteurs japonais de Imagine.
Ouais, j'en ai entendu parler.
Qui était tordante, quoi, vraiment.
Pourquoi tu dis fausse? Tu parles couramment japonais, Fendel?
Non. là n'est pas la question. Mais je préfère laisser le doute, tu vois.
Oui, oui. Mais bon, en gros, donc les auteurs japonais ont fait un petit discours qui a été traduit par... c'était Mike de chez Cocktail, c'est ça?
Oui, je crois.
Ouais, je crois que c'était lui. Donc qui a fait... Enfin, la traduction... Le discours était sûrement très drôle, hein, du coup, et la traduction était très drôle aussi. Avec des petites remarques genre oh, ça a l'air beaucoup plus court en français, c'est bizarre. Enfin, du coup, la traduction était très animée, très très rigolote. Ouais.
Non, mais faut expliquer que le discours était écrit. Le discours en japonais, ils l'avaient écrit et ils avaient écrit à côté la traduction pour oui. pour justement qu'il y ait quelqu'un qui puisse traduire en temps réel, quoi. Et effectivement, le fait que, enfin, Mike a rajouté des petites remarques du genre, c'est étrange parce que c'est vachement plus court en français, quoi. Enfin voilà, des trucs comme ça qui étaient assez marrants, quoi.
Bah, du coup, ça reste quand même une cérémonie détendue, plutôt bon enfant. Enfin, si on compare avec ce qui se fait pour le Spiel des Jahres, je pense qu'on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Pour le Spiel des Jahres, ça a l'air un peu plus sérieux.
Oui, oui, alors très certainement. Après, moi, j'ai peut-être été un peu méchant là dans ce que j'ai dit. Hein. Effectivement, il y en a qui jouent le jeu et qui le jouent bien. Mais globalement, j'ai trouvé que si tu enlèves les auteurs et les éditeurs étrangers, c'était un petit peu moins animé que l'année dernière, quand même.
Mmh. Ah, ça montre aussi peut-être que les gens prennent de plus en plus le prix au sérieux. Mmh. Enfin, quand on voit les polémiques qu'il y a derrière,
on va y venir.
C'est qu'il y a de l'enjeu. Alors donc, à côté de ça, il y avait une autre cérémonie parallèle, bon, pas le même soir. Pour ceux qui ont écouté l'interview de Mathieu Despnous, qui a été réalisée par la même équipe,
oui.
C'était nous trois d'ailleurs. Vous savez qu'il existe une cérémonie parallèle qui s'appelle les Cocktails d'Or.
C'était la dernière d'ailleurs cette année,
voilà. Ce qu'avait annoncé Mathieu.
Et toi, Fendel, tu étais invité.
Oui, exactement, tout à fait. J'étais invité, donc pour ça ils avaient privatisé une boîte de nuit qui se trouve en fait dans le même ensemble que le Palais des Festivals où a lieu le Festival International du Jeu. Et donc voilà, et donc là, ils servaient des cocktails, des petits fours, en attendant une petite demi-heure que les choses se mettent en place. Et puis, bah, c'est comme chaque année. Bon, je vous recommande fortement d'aller voir les vidéos sur. Je pense que Ludovox doit les avoir publiées à l'heure où l'on parle. Mais sinon, vous pouvez retrouver aussi les vidéos des différentes, certaines vidéos de différentes interventions de cette cérémonie assez rigolote. Enfin, surtout la première partie, on va dire. Ensuite, la partie remise est assez conventionnelle, on va le dire. Mais on a eu un super numéro de chansons de Libéré délivré par Mathilde Gigamic, qui était plutôt marrant et assez surprenant. Voilà. Ensuite, pour les personnes qui ont été les élus, donc on a en le cocktail de bronze, donc c'était Tropico. Alors Tropico, c'est un petit jeu de cartes assez rapide qui vous embrouille l'esprit en à peu près 3 minutes.
Oui, c'est un jeu de mémoire.
C'est un jeu de mémoire. Bon, on y avait joué avec Mathieu. Profiler, c'est élu cocktail d'argent. Donc Profiler, qui est la nouvelle sortie de Cocktail Game.
On y reviendra un petit peu plus tard, je pense qu'on va en toucher deux mots.
Ouais. Équipe Cool, qui est élu cocktail d'or. Qui est aussi un petit jeu de communication un peu foufou, où il faut parler à son voisin d'avant, en écoutant son voisin d'après. Enfin, il y a tout un truc, enfin, de droite et de gauche. Enfin, il y a tout un truc un petit peu compliqué. Et un prix spécial du jury qui a été remis à Crazy Misty Gris
Alors, il faut
par la même
juste rappeler
occasion.
à nos auditeurs que les Cocktails d'Or, c'est un prix qui est décerné par Cocktail Games à des jeux Cocktail Games et à des. Voilà, donc c'est un prix complètement subjectif.
Par
Oui,
l'éditeur
c'est
Cocktail
ça.
Games
Par
lui-même.
Mathieu Despnous lui-même.
Oui, par Monsieur Despnous lui-même.
Monsieur Despnous même,
Donc voilà,
tout à fait.
c'est toujours la cérémonie rigolote du festival. Après, le palmarès est un palmarès interne. Faut pas l'oublier, quoi.
Parce que évidemment, Profiler aurait dû être premier.
Bah oui, c'est tellement génial, Profiler.
Et donc, tant qu'on est en train de parler de polémique du cocktail d'or. Il y a eu pas mal de bruit autour de l'As d'Or cette année.
Sur
Alors, je pense que
l'Asdor,
c'est assez
effectivement.
symptomatique, comme je disais tout à l'heure, de l'importance que prend l'As d'Or dans le milieu. Alors, Mathieu Despnous s'est largement exprimé sur Facebook. Si ça vous intéresse, on vous laisse aller regarder sur Facebook. Donc, il n'avait pas l'air très très content de ne pas avoir le prix. C'est sûr qu'il avait fait venir les auteurs d'Imagine, se faire rafler le prix par Unlock, qui est un jeu qui venait de sortir, etc. etc. Bon, c'est sûr que ça ne doit pas être très plaisant. Et il mettait également en avant, et ça il était loin d'être le seul à mettre en avant cette polémique. On a vu voir ça émerger, enfin on a vu émerger ça sur Twitter même avant le salon. C'est la polémique sur Scythe qui n'était pas disponible sur le salon. Parce que le jeu est encore en transition entre Morning et Matago. Et d'ailleurs pour ceux qui assistent à la cérémonie, pour certains ça fait un peu bizarre de voir et une personne de Morning et une personne de Matago monter sur la scène. Alors c'est vrai que le prix est officiellement attribué à Matago parce que c'est la boîte qui a été jugée par le jury. Sauf qu'il faut pas oublier qu'avant c'est Morning qui a amené le jeu en France et c'est par là aussi que le jeu a été connu et a fait son chemin en France. Je sais pas quel est votre avis là-dessus.
Ouais, alors bah moi je c'est vrai que c'est bizarre puisque on peut pas l'acheter tout de suite. Après, c'est vrai qu'il a existé en édition française, comme tu l'as dit, édité par Morning. Donc quelque part, cette transition est bizarre, mais le jeu a existé en édition française avant. Donc il a été disponible. Donc quelque part, ça aurait été bête de le disqualifier pour ça, quoi.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas de bol, quoi. En gros, c'est que c'est au moment de la transition et pile au moment où il y en avait un qui
Ouais,
finissait son stock de boîtes et l'autre
la
qui allait
prochaine.
importer son stock de boîtes, mais en gros, c'est exactement dans le trou entre les deux, quoi. C'est juste ça le problème.
Ouais, c'est juste ça le problème. Et le truc aussi, alors bon, faudrait recouper un peu les infos, mais d'ailleurs, information pour les auditeurs, on va prochainement recevoir Hélène Gravelot, qui est rédactrice en chef du magazine Plateau, et qui faisait partie du jury. Donc, si vous avez des questions à poser sur le jury de Cannes, vous pouvez nous les faire parvenir. voilà, on pourra lui poser les questions, on les mettra dans le conducteur. C'est prévu qu'il y ait une partie consacrée au jouet de Cannes dans l'interview. Alors en fait, ce qui est embêtant, c'est autant Unlock, il a fait beaucoup de bruit, mais au final, il a respecté toutes les règles qui sont imposées par le règlement. Le jeu a été mis dans les mains du jury avant la cérémonie, dans la version finale. Ils ont pu essayer l'ensemble des scénarios disponibles. Unlock était disponible sur le salon. Et c'est plus cet élément-là, si j'ai bien compris, qui fait partie des critères d'obtention de l'As d'Or, que le jeu soit disponible sur le salon. Alors que, enfin, je pense que Matagus savait que le jeu serait pas disponible. Enfin, le conteneur, pour arriver de Chine, je veux dire, il n'est pas parti hier, quoi.
Non, mais je crois qu'ils ont eu un souci.
Bon, c'est à confirmer. Moi, je reviendrai bien quand même 2 minutes sur la polémique de l'As d'Or, pas de l'As d'Or Expert, donc d'Unlock. Alors, des polémiques, il y en a un peu tous les ans. Il y a toujours des déçus, hein, forcément, puisqu'on préfère tel jeu ou tel jeu. Mais cette année, ça a été, j'ai l'impression, un petit peu plus fort que les années d'avant. Premièrement, je pense que, alors, je dis pas, enfin, je trouve qu'Unlock mérite sa victoire, hein. Je l'avais pas testé avant Cannes, j'ai pu le tester, on va en reparler, mais moi, j'ai vraiment apprécié mes parties que j'ai pu faire sur le salon. Mais le problème, je pense que c'est comme un jeu qui est sorti très peu de temps avant Cannes, les joueurs n'ont pas eu le temps de se l'approprier, d'où le ressenti pour certains de hold-up ou de voilà, de qu'est-ce que Unlock fait là. Et le deuxième problème, à mon avis, hein, c'est toujours que mon avis, c'est que ce que récompense l'As d'Or n'est pour l'instant pas assez clair. C'est-à-dire que l'As d'Or expert, on sait que c'est expert, l'As d'Or enfant, on sait que c'est enfant, l'As d'Or tout court, c'est assez peu défini, et on ne sait pas si il récompense l'originalité d'un jeu ou s'il récompense justement l'accessibilité d'un jeu. En fait, le prix, à mon avis, n'est pas, enfin. La définition du prix n'est pas assez précise, ce qui fait que ça part un peu dans tous les sens et dans toutes les polémiques.
Oui, c'est ça, chacun y va de son fantasme sur qu'est-ce que prime l'As d'Or.
Oui.
Et au final, personne ne sait vraiment, enfin, à part le jury. Et fatalement, quand on en parlait tous les deux dans notre précédente chronique, bah voilà, on s'est dit jeu tout public, donc l'accessibilité un des critères les plus prédominants. Et donc on a comparé ces trois-là sur
Sur un
l'accessibilité.
jeu, hein. Et l'ouverture aux joueurs potentiellement néophytes.
Et voilà. Et j'ai regardé, TricTac en fait a fait un débrief hier, donc encore plus à chaud que nous. Et Fall dedans explique le pourquoi du comment de Unlock. Et au final, effectivement, si on regarde les critères qu'il expose, il nous explique par exemple que le prix ne cherche pas à récompenser un jeu qui a déjà fait ses preuves dans les boutiques. Parce que dans ce cas-là, quelque part, le jury ne fait que confirmer un succès boutique. Alors forcément, du coup, les trois dont on a parlé, donc Imagine, Codenames et King Domino, tous les trois ont porté un succès boutique. Ils se sont déjà tous les trois vendus à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires, si ce n'est plus. Donc effectivement, ces jeux-là n'ont pas besoin de.
Ouais, enfin, si t'écoutes les éditeurs, ils ont tous besoin d'un tampon As d'Or, hein, tu sais.
Oui, non, mais voilà, bien sûr. Mais du point de vue du jury, c'est ne pas prendre de risque que de primer un jeu qui a remporté un succès
Ouais, mais
boutique.
si c'est ça, c'est un peu dommage, puisque dans ce cas, la date de sortie
Ah
joue
oui, bien
aussi
sûr.
en défaveur de ceux qui sont sortis bien plus tôt, quoi. Parce que si on se dit, on récompense un jeu qui n'a pas encore eu de succès boutique et qui sort 2 semaines avant, effectivement, c'est beaucoup plus facile de le primer. Donc ouais, je pense que voilà, il y a bon des polémiques, il y en aura encore, c'est pas un problème, mais je pense que honnêtement, si le prix était un petit peu mieux défini, je pense qu'il y aurait un petit peu moins de polémiques que ce qu'il y a eu que ce qu'il y a eu là.
Oui, enfin, je pense qu'effectivement ça mérite un peu plus de communication. Du coup, je trouve, enfin, j'ai toujours un sentiment ambivalent avec Fall. Mais du coup, je trouve que ce qu'il a fait de justifier tout ça, c'est très bien. Du coup, je vous invite à aller voir la vidéo. Je vous inviterai pas forcément souvent à aller regarder une vidéo TricTrac, mais voilà, là, j'ai trouvé ça vraiment intéressant pour avoir les explications et tout. Hein, mais je trouve que les explications sur site sont un peu tendancieuses parce que je trouve qu'elles vont à l'encontre de ce qu'il exprime juste avant pour Unlock. Enfin bon, bref. Mais bon, si ça n'a pas été livré dans les temps, je peux comprendre, effectivement. Et il y a autre chose qui a été dit également, et je m'étais fait la réflexion samedi. Je me suis demandé s'ils n'avaient pas cherché à atteindre plutôt les grands médias. Parce qu'au final, la profession, les trois jeux, elle les connaît, tout le monde est d'accord que ce sont trois très bons jeux. À côté, Unlock, c'est un produit qui est dans l'air du temps, il y a toute cette mode des escape games, en fait, qui explose complètement avec une centaine de salles à Paris. Rien que dans ma ville, il y en a trois escape rooms différentes. Enfin voilà, c'est un vrai phénomène de société. Est-ce que l'idée, ça n'a pas été pour eux de se dire, on va surfer sur ce phénomène, on a un jeu qui est bon, qui est bien dans la tendance, et ça pourrait être un produit d'appel pour le grand public. Leur montrer, voilà, il y a Unlock. À côté de ça, regardez, si vous regardez bien, bon là j'ai un peu moins confiance sur le fait que les gens voient l'As d'Or et aillent voir les autres nominés, mais bon. Sur le principe, sur l'idée, de dire à côté d'Unlock, il y a d'autres jeux, il y a Codenames, imagine, King Domino, qui sont aussi des très bons jeux, et que ce soit une porte d'entrée pour de nouveaux joueurs.
Bah, après la question c'est qui fréquente les escape games et les escape rooms. Moi, de ceux que je connais qui fréquentent ça, c'est quand même beaucoup de gens qui ont au moins un pied ou un demi-pied dans le jeu de société, qui connaissent déjà quelques jeux et qui sont déjà joueurs sur
Ou
ce
le
genre
jeu
de choses.
vidéo.
Je sais pas si des ou le jeu vidéo, voilà. Enfin, c'est pas des gens, c'est pas des familles qui n'y connaissent rien en jeu société qui ou en jeu vidéo qui
Ah,
fréquentent
je
les
suis
escape
pas sûr,
rooms.
hein. C'est beaucoup plus démocratisé que le jeu de société, hein, encore. C'est vraiment. Je pense que oui, il y a un regroupement dans les publics, mais le regroupement est pas complet, quoi. La
Oui,
totalité des joueurs d'Escape Room ne sont pas des joueurs de jeux de société.
je suis d'accord, mais je pense que une grosse partie connaissent déjà un minimum l'univers du jeu de société. Bah, c'est peut-être qu'une mauvaise interprétation de ma part, hein, mais pour moi l'argument est un peu bancal quand même. Si c'est ça l'argument pour primer Unlock.
Bah, moi je pense qu'il tient la route.
D'accord. Mais encore une fois, hein,
Je pense qu'il tient la route parce que c'est aussi un jeu qui surfe sur une tendance des escape rooms, qui déjà a été, enfin, qui du coup a été mis en avant dans les grands médias, qui du coup rebondit sur le fait
Ouais,
que
je
ce
vois ce que tu veux
soit
dire.
dans la
Ouais.
tendance. Et tu vois, ça doit emporter les choses dans un
Ah,
effet
mais
boule de
ensuite,
neige,
c'est
quoi.
un jeu original, on peut pas lui enlever ça aussi, c'est ça qu'ils ont voulu
Ah
récompenser,
oui, non,
surtout.
mais.
Il y a une mécanique originale, c'est très sympa pour
Non,
ça.
non. Encore une fois, moi je remets pas en cause le fait qu'il ait gagné. C'est un jeu qui mérite de gagner parce qu'il est très original, il est très efficace, enfin dans les parties que j'ai pu en faire en tout cas. Et non, ça y a aucun souci. Après, c'est d'essayer de comprendre un petit peu comment fonctionne cette As d'Or et les raisons de cette élection de jeu de l'année.
Eh ben, on posera les questions à Hélène Gravelot.
Ça marche, très bien.
Autre polémique, l'email avant les résultats. Moi, j'ai trouvé
Ah
ça
oui,
énorme.
ça c'était assez énorme. Ouais, ça c'était assez énorme. La salle a
Alors,
frémi. Alors pour ceux qui n'étaient pas.
juste pour
Vas-y, je te
expliquer,
laisse
en gros, les
expliquer, Faldo.
résultats avaient un petit peu de retard et donc ils ont été annoncés vers 20h10, 20h15 et tout le monde avait dans sa boîte mail a reçu à 20h02 les résultats de l'As d'Or. Donc, bah en fait, on regardait en sachant parfaitement quelles étaient les récompensés pour l'As d'Or. Voilà.
J'ai réussi à me boucher les oreilles, à me cacher les yeux et à essayer de vivre quand même la cérémonie avec un peu de suspense. Mais oui, ils avaient, je crois, annoncé le jeu enfant, enfin ils avaient annoncé le vainqueur du jeu de l'année enfant avant que les résultats arrivent dans les boîtes mail. Mais effectivement, pour l'expert et
Non, non,
l'as
même
d'or,
pas, même
on
pas.
avait eu le
Ah,
mail.
même pas.
Même pas? D'accord. Bah moi j'ai vu le mail quand le jeu enfant était déjà annoncé.
Ah, non, non.
Les
Enfin, ils auraient
boîtes
pu
mail.
l'envoyer à 20h30 et c'était bon, quoi, je veux dire.
Ouais.
Ouais,
Mais ça, est-ce qu'ils avaient du retard et est-ce qu'ils avaient programmé un mail automatique? Ou alors
Ah, bah, je pense que c'est ça,
ou
hein.
alors est-ce que la personne qui s'occupe de l'envoi ne suivait absolument pas la cérémonie? Je sais pas.
Ouais, j'avais une théorie que c'était le stagiaire de BFM TV qui avait été embauché par le festival. Enfin bref, ça m'a fait rigoler.
Ouais, bon, c'était pas très grave, mais c'est un peu dommage pour ceux qui suivaient la cérémonie, quoi. Ça enlève vraiment
Oui, parce que bon, dans le
tout le
fond.
petit la petite tension qu'il peut y avoir. Mais bon, c'était décidé
Mais
avant la
dans le fond,
cérémonie, de
c'est
toute
quelques
façon.
minutes avant. Si ça avait été la veille, ça aurait été un autre
Oui.
problème. Au pire, t'imagines, ils se plantent de moi, c'est pas mal. Hein.
Ouais, pour ceux qui ont la chance de participer à la cérémonie, ça gâche quand même pas mal du suspense et de la tension qu'il peut y avoir à l'ouverture des enveloppes, quoi.
Donc voilà un peu pour les polémiques. Alors si il y a eu des articles de Luce que personnellement je n'ai pas lu.
Moi j'ai lu, bon, c'est du gus, quoi. Hein.
Ouais, il y a un peu de titres putaclic et.
Voilà, il y a toujours un peu de fond qui peut être intéressant, mais c'est toujours un petit peu racoleur quand même, quoi. Enfin, voilà, ça c'est mon avis personnel aussi, mais bon, il y a du fond qui est intéressant dans ce qu'il dit.
J'ai pas lu, donc je vais pas me prononcer là-dessus. Mais c'est vrai qu'en général, il y a une part de choses intéressantes dans ce qu'il dit. Il a le don de soulever des sujets.
Oui.
Le problème, c'est qu'il le fait pas toujours de façon très délicate, et du coup, bah ça clash quoi.
Ça braque un peu certaines personnes.
Mais on a besoin de gens comme ça
Ouais.
qui
Oui,
soulèvent
c'est
un
vrai
peu
que
les choses.
ça manque un petit peu des fois de fond et de comment dire et de je trouve pas mon mot, merde. De polémique en fait de voilà de.
D'articles de fond, quoi.
Bah, moi j'avais lu un article, j'avais lu, alors j'ai pas du tout lu l'article de Gus, mais j'ai lu le retour de Mathieu Bonin, qui trouvait qu'en fait il manipulait les chiffres, il manipulait les choses pour leur faire dire ce qu'il voulait, et il trouvait ça absolument dégueulasse. Et voilà, donc juste ça, enfin bon.
On parle de Gus là, c'est ça, qui
Oui,
manipule les
absolument, ouais,
trucs.
qui faisait dire un petit peu ce
Ouais.
qu'il veut, et en fait. Gus, alors on le sait, hein, il a une dent contre le Festival de Cannes, parce que, alors je sais pas précisément quand, mais a priori, enfin je sais précisément quand, mais je pense que il avait demandé à pouvoir être défrayé quand il est venu une année, et il n'a pas été, et depuis bah il s'amuse gentiment à les. On peut être gentil en disant bousculer ou alors
Ouais.
saccager autant qu'il peut parce qu'il est dégoûté de pas y être. Voilà.
Oui, c'est bizarre.
Non, non, mais sincèrement, il avait gueulé sur Twitter comme quoi enfin, la ville de Cannes lui avait promis de le défrayer et qu'au final, il l'avait pas
Ah,
fait. Et donc il leur en veut depuis là. Ensuite, c'est pas forcément ça, hein. Attention, on faut pas forcément
Non, parce
réduire.
que je suis pas sûr qu'il défraye des gens de la presse.
C'est possible à mon avis si tu appartiens à une télé nationale ou quelque chose comme ça. À
Ouais,
mon avis, tu as des chances
enfin,
de te
une
faire
télé
défrayer.
nationale, elle a pas besoin d'être défrayée. Enfin bon, bref. Ouais, on sait pas, donc bon. On va passer à la suite, les quelques éléments qui nous ont paru marquants, significatifs et emblématiques de cette édition. Alors je vais laisser Benoît FX parler du premier point, puisqu'il s'agit du Protolab.
Ouais, alors le Protolab, c'était une nouveauté de cette année. Donc en fait, c'était la volonté de, en plus du off qui a lieu le soir après la fermeture du festival, donc à partir de 22h où les auteurs ont des tables pour présenter leur proto, bah, c'était la volonté de mettre du proto dans le festival directement, donc la journée. Donc il y avait un espace Protolab. Donc comment ça s'est passé? En gros, il y a une soixantaine d'auteurs qui ont été sélectionnés. Donc 30 qui ont été sélectionnés au travers de festivals partenaires, donc les vainqueurs du FLIP, de Ludinor, de Paris Ludique et d'autres festivals étrangers aussi, il y avait des auteurs espagnols et d'autres nationalités aussi que j'ai pas relevé. Voilà. Et il y avait une trentaine d'auteurs qui étaient sélectionnés sur candidature, sur dossier, donc qui envoyaient leurs règles de proto, leurs explications, leurs présentations, et qui ont été sélectionnés comme ça. Donc ces 60 auteurs sont répartis sur, je crois, la journée de samedi et de dimanche matin, des créneaux horaires pour ces tables. Donc il y avait, je sais plus combien de tables, mais chaque auteur avait le droit à deux créneaux de 3 heures dans cet espace. Donc moi j'y étais personnellement le samedi après-midi. Voilà, on avait une petite étiquette. Il fallait qu'on trouve une table sur notre créneau. On se mettait avec notre petite étiquette. On installait le proto.
Tu présentais quoi ?
Et puis après, c'était ouvert. Donc moi, je présentais un proto qui s'appelle toujours Hégémonie. Donc c'est un petit jeu que j'ai créé en collaboration avec Yann Parovel au départ, que j'ai développé un petit peu tout seul parce que Yann est quelqu'un de très occupé. Et donc je présentais ça. C'est un jeu de majorité, de guessing, de rôle caché un petit peu. Donc moi, je suis très content. Ça a très bien fonctionné. Du fait que le samedi, le salon est un petit peu rempli. On avait peur qu'il n'y ait pas trop de monde qui se dirige vers le Protolab. Mais comme le salon est assez rempli, que les tables sont assez remplies, ben les gens sont naturellement venus au Protolab pour tester les protos. Donc moi, la table a pas désempli de tout le samedi après-midi. J'avais le créneau de 13 à 19, j'avais les deux créneaux d'affilée. Voilà. Et en plus de ça, les auteurs qui étaient sélectionnés au Protolab avait une sorte de petit accompagnement, enfin c'est-à-dire que on reparlera du off, mais en gros on avait des tables réservées au off déjà pour ceux qui s'étaient inscrits. Ensuite on avait un accès à certaines conférences aussi prioritaires, même si j'ai pas eu le temps personnellement d'y aller. Et enfin il y avait un speed dating auteur-éditeur qui a été organisé le vendredi soir de 18h à 20h. Donc ça c'est voilà, il y avait la soixantaine d'auteurs qui étaient là, il y avait entre 20 et 30 éditeurs qui se baladaient, et toutes les 10 minutes il y avait une petite clochette pour que les éditeurs changent de table. Donc c'est un exercice qui est pas facile à la fois pour les auteurs et à la fois pour les éditeurs. Pour les auteurs, d'expliquer leur jeu en moins de 10 minutes, dont certaines subtilités ou certains gros jeux, ça peut être très court pour tout expliquer. Et pareil, les éditeurs, de se faire un avis en 10 minutes, c'est parfois un peu compliqué. Donc, mais c'était quand même très sympathique, ça a permis de voir pas mal d'éditeurs. Moi j'en ai vu 6 je crois en tout, et de prendre quelques rendez-vous pour la suite quoi. C'était une bonne initiative, ça existait déjà les années d'avant, je crois, pour le speed dating, mais pour le Protolab et tout ce suivi des auteurs Protolab, c'était la première fois.
Oui, alors une bonne initiative, t'as trouvé que c'était bien organisé au final ?
Oui, c'était une très bonne initiative. Sur l'organisation, bon... sur le salon, c'était pas trop mal. Après, on n'avait pas de table attitrée, donc en fait, on arrivait, c'était des gens d'une asso, je crois, d'une asso ludique, je ne sais plus de quel coin.
Ah oui, qui était à côté.
Qui suivait un petit peu ça. Ouais, qui était à côté, qui était bénévole pour s'occuper du Protolab. Donc, chez eux, on devait récupérer la petite étiquette. Et après, il fallait trouver une table. Donc, des fois, entre deux créneaux, c'était un petit peu compliqué parce que ceux qui terminaient, ceux qui arrivaient, voilà, c'était pas, il fallait terminer les parties, il fallait le temps que les gens remballent des balles. Donc ça, c'était un petit peu, on va dire le quart d'heure, demi-heure de transition, c'était un petit peu compliqué pour trouver une table. Mais après, tout le monde a joué le jeu, donc ça s'est très bien passé. Et pour le speed dating, bon, le speed dating, c'est un petit peu dommage qu'il y ait beaucoup plus d'auteurs que d'éditeurs. Mais bon, c'est statistique, hein. On était une soixantaine d'auteurs. Il n'y a qu'une trentaine d'éditeurs qui sont venus. Ça veut dire qu'en fait, sur les rotations de 10 minutes, on avait une fois sur deux, voire une fois sur trois, un éditeur qui était là. C'était le cas pour tous les auteurs. Mais il n'y avait pas assez d'éditeurs pour le nombre d'auteurs, entre guillemets, pour que ça tourne à toutes les sessions, quoi.
Pour une première, ça m'a l'air quand même pas trop mal.
Ouais, pour une première, c'était pas mal du tout. Et puis, le partenariat avec les autres festivals ludiques, je trouve ça vachement bien. Que justement, ils mettent en avant le gagnant du prix Ludinor, le podium du prix Paris Ludique, le podium des différentes catégories du Flip appartenait. Enfin, voilà, cette représentation des autres festivals qu'il y a toute l'année dans toute la France, ça, c'est un point fort aussi. Parce que le Festival de Cannes, c'est quand même le festival qui attire le plus de monde, le plus de gens. Donc mettre en avant les autres festivals, ça peut être que positif.
De l'Europe francophone même, non ? Bah, il n'y avait pas des trucs de Belgique aussi ?
Oui, il y avait des trucs de Belgique, il y avait des trucs d'Espagne, donc pas que francophone en fait. Hein. Il y avait des prix espagnols aussi, si je me souviens bien. Donc ouais, plutôt un point très positif. Qui moi m'a un peu frustré en tant que joueur parce que du coup j'ai passé on va dire la bonne moitié du salon à présenter mon proto. Donc d'un point de vue auteur, c'était très intéressant. D'un point de vue joueur et chroniqueur, c'était un petit peu frustrant parce que j'ai vraiment pas vu tout ce que je voulais, quoi.
Ouais, bah alors rassure-toi, même nous on n'a pas vu tout ce qu'on voulait voir,
c'est
hein.
Clair.
Ouais, bah ça c'est habituel, mais là particulièrement cette année, tu vois, c'était...
Oui, non, mais cette année il y avait vraiment beaucoup beaucoup beaucoup, beaucoup de sorties. Le proto s'invite dans le salon, il y a des protos en fait en cours d'édition chez les éditeurs.
Ouais.
Enfin, les jeux en cours d'édition sur les éditeurs sont sur les tables, et ça fait d'autant plus de nouveaux jeux
Oui, de plus en plus, ouais.
qui sont sortis, qui vont sortir, qu'on peut essayer.
Ouais.
Donc, bref, ça fait beaucoup beaucoup de jeux, et il y en a beaucoup dont on va vous parler qui ne sont pas encore sortis. Alors accrochez-vous et soyez forts, hein.
Soyez patient.
Alors moi, j'avais un petit bémol sur le Protolab. Des auteurs m'ont rapporté qu'ils n'avaient pas été sélectionnés au Protolab.
Ouais.
C'était des gens qui avaient déposé un dossier, donc ils n'avaient pas
Ouais.
été sélectionnés via d'autres festivals. En fait, ce qu'ils reprochaient, c'est le retour qui a été fait face à leur rejet. Donc en fait, le festival leur a dit non, on vous prend pas. Et ils n'avaient pas reçu plus d'éléments que ça.
De justification, ouais.
Et ça, donc ça les avait un peu embêtés. Et du coup, ils leur avaient demandé, bah, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui va pas? Voilà. Donc ils ont reçu un mail du style, alors je me rappelle plus exactement, mais c'était du style, votre proto était très intéressant, il présentait des originalités, blablabla, mais bon, vous comprenez, patati patata. Et en fait, ils se sont rendus
Ouais, un truc un
compte,
peu bateau, quoi.
oui, enfin, non, enfin, ça paraissait plausible, d'après ce que j'ai compris. Et en fait, ils ont discuté avec d'autres auteurs qui avaient reçu exactement le même mail, et
Ouais.
là, effectivement, ça fait un peu désordre. Donc voilà.
Alors, pour le coup, j'essaierai de me renseigner. Moi, j'ai eu la chance d'être sélectionné via un autre festival. Je t'avouerai que, effectivement, pour les sélections sur dossier, je ne sais absolument pas comment ça s'est passé et qui s'en est occupé de ces sélections. C'est un truc que j'ai pas du tout. Je ne suis pas du tout renseigné du coup du fait que j'étais sélectionné, on va dire, automatiquement.
Ouais, c'est un boulot monstrueux, je pense, un peu, hein. Recevoir des règles de proto, les analyser, sélectionner des jeux.
Oui.
C'est pas impossible qu'ils se soient fait un peu déborder par ça, hein. Et qu'ils aient du coup été obligés de traiter ça avec un peu moins de sérieux que ce que peut faire Boulogne-Billancourt.
Ouais, le CNJ, oui, qui. Ouais, alors le CNJ, la candidature est payante. Donc, si tu veux, vaut mieux que tu aies un retour sérieux derrière, quoi.
Ouais, c'est sûr. Donc voilà. Et oui, donc tu parlais un peu du off. Et que t'avais une place réservée sur l'off, c'est ça?
Oui, c'est ça, en fait, les auteurs du Protolab avaient. Alors, on avait indiqué à l'avance, en fait, les soirs où on comptait venir au off dans le cadre du Protolab. Et dans ce cas, effectivement, il y avait la petite affichette avec notre nom et le nom de notre proto sur les tables, donc qui était réservée sur les soirées qu'on avait demandées. Donc ça, c'est plutôt agréable aussi parce que ça. Alors le comme on va parler du off en général, mais moi j'ai pas fait j'étais pas allé au off les années précédentes dans la rotonde. J'avais fait mon petit joueur, on avait fait des off à l'appart à tester des jeux qu'on avait reçus ou qu'on avait achetés. Et du coup j'étais pas allé au off les années précédentes. Alors ce que j'ai compris les années précédentes, c'était assez dur d'avoir une table, c'est-à-dire qu'il fallait être là avant 22 h devant les portes, faire le pied de grue pour pouvoir avoir une table. Cette année, malgré donc moi j'ai pas eu ce problème parce que j'avais une table réservée, notamment sur le vendredi soir que j'avais demandé, mais j'y suis allé pratiquement tous les soirs. J'ai fait un petit tour et le jeudi soir et le vendredi soir et le samedi soir, et j'ai eu l'impression qu'il n'y avait pas de personne avec leur proto sur les bras à chercher absolument une table. Il y avait de la place pour à peu près tout le monde qui voulait avoir une table, ou alors ça tournait très
Ouais,
bien, mais il y avait toujours une ou deux tables libres pour les auteurs, quoi.
en fait, c'était un peu plus compliqué que ça cette année. Il fallait réserver. C'est-à-dire
Ah,
que
c'est pour ça, d'accord.
t'étais pas obligé de réserver un mois à l'avance, mais enfin, si j'ai bien compris. J'ai vu aucune info passer sur le sujet. C'est encore une fois des auteurs de proto qui m'ont expliqué. Ils m'ont dit bah, ils ont été surpris, il fallait réserver. Enfin, bref, ils ont réservé le jour même pour le soir même. Ça s'est bien passé, mais du coup, un premier changement, c'est que c'était plus le même espace. Je pense que c'était la même surface. Enfin, c'est difficile à s'imaginer parce que la pièce, c'est pas agencée pareil. J'ai pas l'impression que c'était ni plus grand ni plus petit.
L'organe nous a dit même nombre de tables et un petit peu plus petit qu'à la rotonde, mais le même nombre de tables pour les protos.
Ben voilà, ouais. Ouais. Et du coup, ça confirme mon impression de ni plus ni moins. Ouais. Et donc, oui, deuxième changement, bah, il fallait réserver, donc bah, ça faisait peut-être un petit peu moins de bordel.
Oui.
Pourquoi pas, du coup, ça m'a paru mieux organisé, d'autant que la buvette était à l'entrée. Et alors, ça, c'est quand même le must de l'organisation.
Parce que
Parce que t'arrives, tu prends ton verre et tu vas chercher une table.
Ouais.
On ne peut mieux faire.
Non, ouais, moi qui n'ai pas connu ceux des années d'avant, j'ai trouvé ça très agréable, ce off, avec effectivement le petit bar, en fait, dans un couloir juste avant la salle, où tout le monde se retrouvait un peu pour papoter, boire des coups, et puis la grande salle avec toutes les tables. C'était vraiment agréable. Et puis c'était, malgré le fait que l'espace au sol était apparemment un petit peu plus petit, je n'ai pas senti qu'on était vraiment qu'on se marchait dessus, quoi.
Ouais. Et donc la buvette toujours tenue par l'association des cafés ludiques de France, le nom exact m'échappe, avec toujours des super bonnes bières. Franchement, il vaut bien aller boire sa bière au off, c'est moins cher, elle est meilleure à 2,50 € le verre imbattable. Ouais, c'est cool. Je pense qu'on peut dire que le off, c'est un gros succès cette
Ouais.
année.
Je viens de penser à un truc sur le Protolab et sur le speed dating auteur-éditeur. J'ai discuté avec certains éditeurs qui n'étaient pas au courant. Donc, effectivement, sur la com aussi, parce que tu parlais de la com sur les réservations du off, que tout le monde n'était pas au courant qu'il fallait réserver cette année pour le off. Eh bien, pour le speed dating auteur-éditeur, j'ai croisé deux, trois éditeurs qui n'étaient pas informés de ce speed dating,
D'accord.
alors que c'était normalement ouvert à tous les éditeurs, quoi.
Ouais, c'est dommage.
Ouais. Voilà, c'était le petit bémol de ce speed dating.
Non, mais enfin après, il faut quand même avouer que c'est un festival qui se renouvelle, qui cherche des nouvelles choses, qui cherche à s'améliorer d'année en année, et qui la plupart du temps prend en compte les remarques qui ont été faites les années précédentes. Donc du coup, j'ai pas trop de doute sur le fait qu'ils vont tenter d'améliorer ça l'année prochaine. Mais moi, ça m'a paru plutôt pas mal à ce niveau-là quand même. Pour le
Non, mais
off, ouais.
ce qui était cool aussi, c'est qu'ils avaient une espèce de petit chariot qui permettait d'avancer
Ah oui!
les
Un bar
ouais.
mobile.
Ah oui, ça c'était
Un
trop
bar
bien ça.
mobile.
Trop
Super bonne
bonne
idée, ouais.
idée. Et du coup, t'es pas obligé. Parce que bon, le bar il est à l'entrée. Mais du coup, il faut que tu retournes à
Bah ouais,
l'entrée
tu
chercher
peux
ton
pas
verre.
quitter ta table, c'était
Et
pratique.
là, les mecs ils sont venus avec un chariot pour t'amener les bières. C'est énorme. C'est trop fort. Moi ça me touche, hein. Quand on parle de bière, ça me touche en plein cœur.
Et surtout si t'as pas besoin de te lever de ta chaise, quoi.
Ouais, enfin, il fallait quand même se lever de sa chaise, mais bon, ça va quoi. Autre nouveauté de cette année, c'était des passes VIP. Cette année, il y avait donc des places à vendre pour le festival. Donc une partie des gens ont payé leur entrée pour rentrer sur le festival. 1000 personnes très exactement, qui avaient la possibilité d'acheter donc un pass VIP qui leur donnait la possibilité de rentrer via l'entrée exposante, non, je sais pas.
Non, il y avait une deuxième file.
Ouais, il y avait une file à côté,
Ah, d'accord.
sur de la file principale. Et je crois qu'ils ont eu accès aussi à la cérémonie de l'As d'Or grâce à ce pass, du jeudi soir.
Ouais, donc ça leur permettait de rentrer plus vite sur le festival et ça leur donnait aussi des petites réductions, chez différents partenaires sur le salon, des goodies. Je crois ils avaient un petit sac avec des choses dedans. Il y avait même
Ouais.
un jeu, un timeline.
Alors j'ai vu quelques personnes qui ont un petit peu râlé sur le pass VIP en disant que finalement ils n'avaient pas une ouverture qui était plus tôt que celle du public. Donc si tu veux, ceux qui étaient là aux aurores sur l'entrée classique, en fait rentraient en même temps qu'eux. Donc pour l'accès aux tables, en fait, ils n'étaient pas spécialement favorisés. Et ils disaient aussi que ceux qui avaient l'accès presse, éditeur, auteur, enfin tous ceux qui avaient des badges co comme nous, qui pouvaient rentrer du coup pour le coup un petit peu avant, je crois que nous on pouvait rentrer dès 9h, eh bien ça a bloqué quand même pas mal des tables intéressantes tôt. Et que du coup, le pass VIP ne permettait pas d'avoir accès aux tables. Voilà. Ils mettaient le bémol que ce serait bien qu'ils aient peut-être une ouverture 15-30 minutes avant l'ouverture publique pour ce pass VIP, pour qu'ils puissent rentrer dans le festival un petit peu plus tôt. Parce que là, ils rentraient en même temps que les premiers qui attendaient dans la file classique, quoi.
Ouais, c'était 30 € je crois le pass.
Oui, 30 euros, c'est ça, ouais.
C'est pas rien, en fait c'est à peu près ce que tu payes pour les 4 jours à Essen, il me semble. C'est à peu près dans ces eaux-là. Et effectivement, enfin, j'ai vu des gens quoi à des tables le matin et pas avoir leur table quoi. On a beau arriver dans les premiers, il y a les porteurs de badges qui sont déjà là et qui peuvent déjà occuper les tables intéressantes. C'est sûr que c'est frustrant pour le grand public. D'un autre côté, c'est vrai que en tant que presse, on est là aussi pour couvrir le festival.
Oui.
Et par exemple, Seeders, le jeu que j'ai essayé le dernier jour, on est arrivé, il y avait quatre tables pourtant, et elles étaient déjà occupées les quatre avant l'ouverture au public, quoi. Donc c'est clair que pour les gens c'est hyper frustrant. Ils viennent tôt le dimanche matin et la table est toujours pas dispo, quoi. Et il n'y a pas que la presse, il y a aussi des exposants, enfin des gens qui sont exposants pour une journée ou.
Ouais, il y a des illustrateurs, enfin oui, il y a tous les professionnels ou
Voilà.
la presse qui a accès effectivement un petit peu plus tôt, quoi.
Mais voilà, je trouve l'initiative intéressante. Voilà, et puis il faudrait que ça s'améliore dans les années à venir.
Oui, comme c'était la première fois, je pense qu'ils vont améliorer ça sur les prochaines éditions.
Sujet suivant, l'internationalisation du festival. Vaste sujet. Parce que le festival international, toujours quand même. Alors,
Ouais.
moi je trouvais qu'effectivement cette année il y avait quelques éléments marquants du côté de l'internationalisation. Je trouve que ça avait démarré un petit peu l'année dernière, il y avait des prémices, et cette année on sent une petite confirmation, mais c'est pas encore la folie, quoi. C'est.
Donc effectivement, il y avait Ignacy Trevicek invité par Edge, Imagine invité par Cocktail Game, Kikul Koukou qui était invité par ISPA, donc l'association des éditeurs espagnols ISPA, alors non j'ai dit une bêtise, l'auteur de Kikul Koukou c'était invité par ABBA, BGG qui était là, et voilà, mais en fait, bah moi je relativise ça dans la mesure où toutes ces personnes elles ont été invitées par leur propre éditeur. Je sais pas s'ils ont vraiment été invités par Cannes eux-mêmes, quoi. Voilà, ça c'est un petit peu la question que je me pose.
Oui, il y avait déjà d'autres auteurs étrangers. On pense à Eric Lang notamment, qui est souvent sur le festival, invité par les éditeurs, quoi. Enfin, il y a des.
Enfin, il est venu deux fois seulement.
Oui, bah voilà. Enfin, moi j'ai fait trois éditions et ça fait deux fois que je le vois, si tu veux. Donc c'est pour ça que je dis ça. Alors, moi j'avais un petit, enfin voilà, pareil, une petite histoire qu'on m'a racontée sur un bémol sur le côté international de la chose. Alors pour ceux qui n'auraient pas suivi, Monster Game n'existe plus en tant que tel, c'est-à-dire qu'il y avait un Monster Game qui était basé en France et un Monster Game Asia qui était basé en Corée. Tout ça, ça ne va plus trop exister, ça va être regroupé en Corée sous l'appellation Sorry We Are French, qui du coup avait demandé un stand pour le salon. Et on leur a demandé du coup de fournir un numéro de ciré ou je ne sais plus quelle justification franco-française ou en tout cas européenne qu'ils ne pouvaient pas fournir parce qu'ils étaient coréens. Enfin, en tout cas, la boîte est basée en Corée. Du coup, ça a été apparemment assez compliqué pour obtenir un stand. Et voilà, je trouve ça un peu bizarre et dommage pour un festival qui se veut international, quoi.
Ouais, enfin ouais, je suis d'accord avec toi. Je sais pas du tout si les Espagnols ont rencontré le même problème. Dommage, si on a vu l'info avant, on leur aurait demandé.
Bah, vu que les Espagnols, c'est une association, donc peut-être pas besoin de numéro de ciré ou de trucs comme ça dépend peut-être du statut aussi de ceux qui demandent les
Bah,
stands.
les associations en France, elles ont un numéro de siret aussi.
Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
Ensuite, c'est une association d'éditeurs, donc ils ont, à mon avis, des numéros de siret équivalents en Espagne.
Oui.
J'y connais rien du tout,
Oui,
mais.
peut-être que
Enfin,
dans les.
le SIRET, c'est français, en tout cas.
Oui, mais
Oui, mais
équivalent.
peut-être qu'en Europe, il y a des équivalents. Peut-être qu'en Europe, il y a des équivalents qu'ils n'ont pas en
Ah,
Corée
oui,
ou.
peut-être, oui. Oui, tu veux dire que les éditeurs européens auraient été acceptés plus facilement que les éditeurs non européens?
Bah, peut-être qu'ils ont des justifications d'existence type numéro de ciré qui sont reconnues en France, qui n'ont pas le numéro de ciré, mais qui sont les équivalents dans ces pays, et qu'en Corée, ça fonctionne différemment et que du coup, il y a plus de mal. À fournir une justification de ce type, quoi. Enfin voilà, c'est de la.
Ce serait intéressant de poser la question.
Ouais.
Et j'avais noté autre chose aussi, c'est qu'on entend souvent les Français reprocher au Spiel des Jahres de ne pas s'internationaliser, d'avoir une cérémonie en allemand. Et pourtant, bah, la cérémonie de l'As d'Or, elle est en français, elle n'est pas traduite en anglais, il n'y a pas de message en anglais dans le salon. Rassure, c'est un peu l'histoire de la fée de la poule. Pourquoi traduire s'il n'y a pas le public, enfin s'il n'y a pas d'auditeur pendant la cérémonie ou sur le salon, le public étranger? Ben, d'un autre côté, si on le fait pas, ça va pas non plus inciter les gens à venir.
Ah, moi je suis d'accord.
Après, durant la cérémonie, il y a, bon, c'était minime, hein, mais il y a certains auteurs-éditeurs qui sont exprimés en anglais, du coup, et sans qu'il y ait forcément de
Oui,
traduction, quoi.
d'accord. C'était pas traduit en français.
Non. Bon, la salle avait l'air de comprendre à peu près ce qu'il racontait, donc il n'y a pas eu de
Ouais.
traduction
Bon, y a beaucoup de gens
explicite.
qui ont joué à Magic, quoi, en anglais.
Oui.
Même moi. Même moi qui suis pas bon en anglais, bon, voilà,
Oui,
je peux
tu
comprendre à peu
comprends
près. Mais
le
voilà,
sujet
c'est pour.
principal de ce qu'il raconte, quoi.
En gros, voilà, la note que je donnerais en progression, mais peut mieux faire. Pour l'internationalisation. J'ai noté d'autres choses. On aurait pu en parler avant, j'ai peut-être pas mis les points dans le bon ordre. Il y a la création des espaces famille et enfants. On incitait des éditeurs à splitter leur stand en deux. On avait par exemple Orange, Yellow, Matago, Asmodée, qui avaient leur stand en bas, dans la partie plus joueurs. Et ils avaient un deuxième stand à l'étage, plus destiné à la famille ou aux enfants. Il y a du coup une démultiplication des stands, mais c'est pas nécessairement, enfin c'est pas forcément une démultiplication des éditeurs, quoi. Et j'imagine qu'en termes d'organisation, ça doit se complexifier un peu pour ces éditeurs, parce que avoir un stand plus grand, ok, mais ça veut dire aussi des présentateurs pour les deux stands. Et puis il faut qu'il y ait un responsable dans le stand. Souvent il y a un responsable événementiel dans ces boîtes, et encore c'est déjà pas mal, mais il n'y en a pas deux. Mais ça a le mérite d'être clair du coup pour savoir quels sont les jeux qui sont présentés sur les différents stands. C'est-à-dire que du coup bah, les jeux destinés à la famille sont à
Ouais, je
l'étage.
pense que pour le public, c'est peut-être plus clair
Oui, c'est plus
et
clair.
plus près, ouais.
Voilà, et puis enfin des conférences. Alors, j'ai eu l'impression, je me suis pas trop penché sur le sujet, mais j'ai l'impression qu'il y en avait plus que l'année dernière. Il y en a une partie qui sera rediffusée par
Il y en a
Ludovox. Je crois
quelques-unes
qu'ils en avaient sélectionné trois.
qui ont été filmées par Trick Track aussi, je crois.
Ah, d'accord, ok.
Enfin, en tout cas, j'ai vu sur Facebook Live une conférence relation auteur-éditeur. Avec notamment Bruno Catala et Mathilde de Gigamic, donc qui a été retranscrit en live sur Facebook et dont le live est publié maintenant sur Facebook et disponible. Donc voilà, y a eu des choses faites par Trick Track. La cérémonie des As d'Or aussi a été rediffusée par Trick Track.
Ok, on essaiera de retrouver tout ça pour vous les mettre dans le billet. Et ben voilà donc pour nos impressions sur le festival, on va pouvoir passer à la rubrique jeux, les jeux qu'on a essayés. Mais avant ça, ben, on va faire une petite pause et on va vous dire à la semaine prochaine. On va faire une petite coupure là. Et évidemment, d'ici là,
Jouez
jouez bien.
bien. Je pense qu'on peut même skipper les couacs, non? Parce qu'il n'y a pas d'intérêt, on a déjà tout dit. Contrôle renforcé, sauf si vous voulez parler des contrôles renforcés, mais.
Ouais, et puis globalement, c'était quand même plus fluide que l'année dernière.
Si un jour je passe les contrôles, je vous dirai.